Géopolitique.
Caroline Paré.
Bonjour et merci d'être avec nous pour cette édition consacrée à la Corée, la nouvelle donne après la destitution de la présidente Park Geun-hye. Ce mois de mars qui s'achève s'est révélé proprement étourdissant pour les Sud-Coréens. Avec cette semaine, c'était mardi, les excuses publiques de la présidente destituée Park Geun-hye, privée officiellement de son mandat par la Cour constitutionnelle depuis le 10 mars. Privé aussi de fait de son immunité. Un mois marqué toujours en Corée du Sud par la décision formelle de déployer le bouclier antimissile américain THAAD, par la première visite du nouveau chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, à Séoul. Il est aussi passé par Pékin, par le Japon, et puis encore par deux tirs de missiles nord-coréens en l'espace de deux semaines à peine. L'un réussi, le dernier, c'était mercredi, il a échoué. Alors, contexte très dense pour un pays appelé à voter, ce sera le 9 mai. Après des mois et des mois de contestation populaire, une ex-présidente soupçonnée, c'est l'objet d'une enquête judiciaire, d'avoir favorisé une politique de collusion entre intérêts publics et industriels. Scandale qui a surtout révélé que le pouvoir était entre les mains d'une femme sous influence. Alors, crise politique retentissante pour la Corée du Sud qui partage, on le sait, avec son voisin du Nord, la frontière la plus militarisée au monde.
Géopolitique. Caroline Paré.
Corée, la nouvelle donne après Park Geun-hye. Pour en parler avec nous, Juliette Morio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'Asialiste. Parmi les nombreux ouvrages que vous avez consacrés à cette région, on peut citer « La Corée du Nord en 100 questions » que vous avez co-signé avec Dorian Malovic, publié chez Talendier. Également autour de cette table, Mathieu Duchâtel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du programme Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales. Alors, il y a deux semaines, dans cette destitution, l'ex-présidente, convoquée par les magistrats pour une première audition, peut-être plus tard il y aura donc une inculpation, des retombées très multiples de ce scandale, impact politique, puisque le pays entre en campagne électorale. On l'a dit, la présidentielle, ce sera le 9 mai, 60 jours donc pour voter après cette décision unanime des juges de la Cour constitutionnelle pour mettre un terme à ce mandat présidentiel. Il y a forcément un impact économique, le scandale éclabousse au-delà de sa classe dirigeante, son socle industriel, les conglomérats qui régentent encore aujourd'hui pour une large part l'activité du pays, l'impact sociétal avec cette jeune génération qui en a marre de voir ces vieux tout décider à leur place, et puis l'impact régional, international pour une Corée du Sud sous la menace quotidienne des humeurs, des excès de Pyongyang, de l'influence régionale chinoise et puis bien sûr les incertitudes face à un allié américain qui a changé de visage. Mathieu Duchâtel, l'ex-présidente, est aujourd'hui une justiciable comme les autres. Elle est restée au pouvoir 4 ans et 13 jours précisément. Alors comment les relations Nord-Sud ou Sud-Nord ont évolué sous son mandat?
Alors la présidente Park a commencé son mandat avec une proposition, la trust politique, la politique de confiance, qui consistait à proposer au Nord de récompenser les mouvements que le Nord ferait dans la direction de la dénucléarisation et en même temps à punir la violation des accords ou les provocations. C'était un petit peu l'idée de la présidente Park et ça a mené à une montée des tensions sans précédent dans les relations récentes entre les deux Corées. Le processus a échoué, on peut le dire. Les relations se sont considérablement détériorées. Il n'y a plus aujourd'hui de liens économiques comme ceux qu'il y avait auparavant avec la fermeture de la zone industrielle de Kaesong, que les Nord-Coréens ont d'abord mis sous pression en 2013 après leur troisième test d'une arme nucléaire. Puis que la présidente Park a tenté de renégocier, parce que c'est quand même important pour les entreprises sud-coréennes, il y en avait plus de 100 des petites et moyennes entreprises présentes sur Kaesong, avant elle-même de la fermer après le quatrième test de février 2016. Et c'était le symbole du lien entre les deux Corées qu'elle a choisi de complètement terminer.
Fin d'activité donc pour cette zone d'activité avec des milliers de Sud-Coréens qui passaient de l'autre côté pour aller travailler. On l'a compris, vraiment détérioration pendant que le Parti conservateur était au pouvoir. Mathieu Duchâtel, qu'est-ce qui a changé aussi pendant cette période dans les relations entre Séoul, Pékin et Tokyo?
Alors Pékin est peut-être la partie qui a le plus changé pendant cette période. En 2011, au moment de la mort de Kim Jong-il, la Chine place beaucoup d'espoir dans ce qui va venir après. Elle a vraiment une politique de soutien de l'ouverture économique de la Corée du Nord. Elle soutient les plans de l'époque d'ouverture de zones économiques spéciales à la frontière de la Chine. Et elle pense que le nouveau leader, Kim Jong-un, va incarner cette politique de plus grande ouverture. Elle est prête à le soutenir. Et en même temps, la Chine, pendant cette période, pense aussi travailler plus avec la Corée du Sud sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Donc on part d'une situation en 2011-2012 où la Chine cherche à travailler avec les deux, à la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, où la Chine, et c'est sans précédent, sanctionne à la fois énormément la Corée du Nord dans le cadre des sanctions de l'ONU, mais qu'elle a poussées elle-même, et la Corée du Sud en réplique à l'adoption par la Corée du Sud de la défense antimissile américaine qui gêne énormément les Chinois. Donc on est passé vraiment par une période de grands changements tactiques sous Xi Jinping vis-à-vis des deux Corées.
Alors on va reparler de ces relations, de cette carte redistribuée dans la région avec beaucoup d'attentes, puisque on peut le dire finalement, Juliette Morillo, ces années Park Geun-hye ont été pour la région plutôt des années de déception, en tout cas de raidissement des relations.
Oui, incontestablement, Park Geun-hye s'est isolé vis-à-vis de la population sud-coréenne, mais en effet, les relations avec Pyongyang sont aujourd'hui véritablement au plus bas. Et avec la Chine, comme le disait Mathieu Duchâtel à l'instant, les relations sont particulièrement basses, puisque la Chine a entamé des mesures de rétorsion assez graves, importantes contre la Corée du Sud, notamment, par exemple, en Chine, pas mal de sociétés sud-coréennes ont été victimes d'audits financiers très sérieux pour mettre de la pression. Il y a eu également une sorte de boycott de toute la fameuse K-pop. Vous savez, la K-pop, c'est Gangnam Style, c'est toute la musique, les séries sud-coréennes qui sont très très en vogue en Chine et qui maintenant sont limitées, ne sont plus diffusées. Et puis en plus, et ça c'est un petit impact économique qu'il ne faut pas négliger, les voyages de Chinois en Corée du Sud sont interdits. Donc la Chine est en train de mettre de la pression sur la Corée du Sud, et tout ça parce que la fameuse Park Geun-hye a autorisé donc l'installation des patries antimissiles THAAD. Mais Park Geun-hye s'est aussi isolée de la Corée du Nord, et là on en revient à sa destitution, parce qu'elle aurait en effet fermé cette zone de Kaesong et raidi les relations avec Pyongyang sur le conseil de cette fameuse conseillère occulte chamane à l'origine du fameux scandale qui lui a valu aujourd'hui d'être déchu.
Alors, il y a une dimension internationale, on le comprend. Il y a cette dimension très personnelle, quasiment psychologique, sur la personnalité de la présidente qui a donc été contrainte par les sages de quitter le pouvoir. On l'a vu cette semaine aller voir des magistrats. En sortant, elle a présenté ses excuses. D'ailleurs, c'était pas la première fois. Est-ce que, d'après vous, Juliette Morillo, l'ex-présidente a changé d'attitude ?
Non. Elle n'a pas changé d'attitude. Pour moi, c'est la digne fille de son père, qui est certes l'artisan Park Chung-hee, qui est l'artisan du miracle économique sud-coréen au lendemain de la guerre, mais qui a remonté l'économie sud-coréenne vraiment à la sueur et au sang de la population coréenne, et qui était un dictateur. Et d'ailleurs, quand Park Geun-hye a été élu, c'est bien parce que justement, on voulait une politique forte et conservatrice à la tête de la Corée. Cette femme, finalement, a beaucoup déçu, curieusement, a déçu à la fois, bien évidemment, ses opposants, mais également ceux de son camp qui ont découvert finalement que c'est une sorte de fantoche, une femme faible. Ceci dit, on dit qu'elle a présenté des excuses. N'oubliez pas qu'au lendemain du scandale, elle avait présenté des excuses. Après, elle a été reprise en main par ses avocats et elle a fait machine arrière. Et là, elle a certes présenté des excuses, mais en même temps, elle a tenu bon parce que normalement, petit détail qu'il faut pas oublier, au lendemain de la destitution, elle était censée quitter immédiatement la Maison Bleue, donc le siège du gouvernement. Elle a quand même pris 2 jours pour quitter la Maison Bleue, tout en précisant « la vérité verra le jour ». Donc elle n'a pas l'intention de se laisser abattre, et je ne pense pas que malgré la nuque courbée et les excuses officielles très traditionnelles, elle va lâcher le morceau si vite.
Juliette Morillo, quand on lit un petit peu les articles de presse sur cette femme, on voit qu'il y a beaucoup de surnoms. Hein. On l'appelle la princesse de glace, la reine des élections, femme sous influence aussi, on l'a dit. Alors, difficile un petit peu de faire la part des choses pour savoir qui elle est vraiment.
Alors, je pense qu'en fait, c'est une femme blessée. C'est c'est un élément sensible qui est important. Elle n'a pas eu une enfance très très facile finalement, enfin une jeunesse très très facile, puisque sa mère a été assassinée, son père a été assassiné, et quand sa mère a été assassinée, c'était une toute jeune fille qui revenait finalement d'études. Elle était en France à cette époque-là, elle était à Grenoble, et elle a joué le rôle de sa mère auprès de son père. Et c'est à ce moment-là que finalement c'est une orpheline, et elle a été sous l'emprise de ce gourou, le père de la fameuse confidente, qui l'a prise sous son aile et lui a promis notamment de discuter de façon plus ou moins occulte avec sa mère. Donc c'est une femme faible qui s'est enfermée, qu'on a appelée également une princesse parce qu'il paraît qu'elle était assez arrogante, et qui finalement, je pense, a une fracture interne très forte.
Avec cet enfermement, justement, qu'on retrouve à plusieurs périodes de sa vie, en particulier au moment de l'épisode tragique du naufrage du cargo, le Seawall, le paquebot, avec ses centaines d'enfants qui sont morts dans cette tragédie, véritable choc national pour la population de Corée du Sud. Là, pendant plusieurs heures, elle disparaît. On ne sait pas où elle est, encore une fois, cette zone de mystère autour de son emploi du temps, alors qu'elle est quand même le premier personnage de l'État.
Oui, alors ça a littéralement cristallisé toute la colère du peuple coréen, parce que c'était inadmissible. Alors, il faut rappeler très rapidement que dans le naufrage de ce ferry, entre 300 et 400, je ne sais plus exactement les chiffres, collégiens, donc c'était des gamins de 3e, de 4e, de 2e, ont péri dans le naufrage et elle a disparu. Elle a fait des excuses pour son absence, mais à ce moment-là, toute la foule était en train de la huer. Et aujourd'hui, c'est très très symbolique. Le ferry a été exhumé des eaux, et les journaux sud-coréens titrent simplement sur le fait que enfin le ferry sort de l'eau et qu'elle est en train de sombrer. Donc il y a une sorte de justice à tout cela.
Mathieu Duchâtel, il y a quelque chose d'assez déstabilisant dans ce fait de l'hyper-personnalisation de la politique aujourd'hui, y compris la politique internationale. On voit cette présidente assez mystérieuse, on a le dirigeant nord-coréen. Là aussi, on ne sait jamais ce qu'il va décider, même si finalement, ses actions ont un petit peu l'habitude de se répéter. Et puis, Donald Trump, il n'est pas allé directement dans la région. Pour l'instant, il n'a fait qu'y envoyer son secrétaire d'État, présidente destituée, héritier omnipotent, nouveau dirigeant pour le moins prévisible. On n'est pas habitué à faire de la géopolitique avec ce genre de typologie.
La personnalisation de la géopolitique de la péninsule coréenne est évidente dans le cas de la Corée du Nord, dans le cas de Xi Jinping en Chine, aussi bien dans le cas du Japon et d'Abe qui portent beaucoup d'intérêt. Sur le cas de Donald Trump, en fait, ce qu'il faut noter en ce moment, c'est que les États-Unis, sous ses ordres, en fait, au niveau du Conseil pour la sécurité nationale, ont mis en œuvre ce qu'ils appellent une revue de politique coréenne, dont on n'a pas encore les résultats, qui est en cours en ce moment. Et Donald Trump a ordonné le Conseil pour la sécurité nationale d'examiner absolument toutes les options. De l'option la plus diplomatique, c'est-à-dire la reprise des pourparlers à 6 qui sont maintenant interrompus depuis fort longtemps, jusqu'aux options militaires, c'est-à-dire les frappes préemptives contre les installations de missiles nord-coréens, contre les sites nucléaires, voire même les interceptions en vol des prochains tests de missiles nord-coréens. Alors, est-ce que c'est une personnalisation du pouvoir ? Pour l'instant, non. Il s'appuie sur son équipe, mais il aura une décision à prendre, et cette décision sera la plus déterminante pour l'avenir de la péninsule coréenne cette année.
Juliette Morillot.
Oui, je pense que Pyongyang avait attendu autre chose avec, en effet, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. À l'origine, avant d'être élu, Donald Trump avait dit qu'il aurait un dialogue bilatéral direct avec Pyongyang. Et aujourd'hui, en s'engageant finalement sur une politique avec, en effet, un retour aux négociations assises sur la dénucléarisation de la péninsule, ça ne peut que attiser l'ire de Pyongyang, parce qu'en fait, il faut se poser une question toute simple, c'est que veut Pyongyang ? Et Pyongyang veut déjà un dialogue bilatéral direct avec Washington. La plupart des crises ont été dénouées par un dialogue bilatéral avec Washington. Ne veut pas se retrouver sur la sellette comme une sorte de tribunal avec ces fameuses négociations assises qui, je le rappelle, comprennent pour les auditeurs le Japon, la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord, les États-Unis et la Russie. Et l'autre point, c'est que Pyongyang aussi veut un dialogue bilatéral direct avec la Corée du Sud. Ça va être l'enjeu principal et un des points principaux peau que devra affronter le nouveau président de la Corée du Sud.
Certainement une question d'ailleurs qui sera évoquée pendant la campagne. On a parlé de cette dimension assez peu finalement de la corruption, mais c'est aussi ce qui est ressorti de toute l'enquête, de toutes les révélations de la presse de ces dernières semaines, cette dérive financière. Il y a aussi, on peut le dire, au-delà de la crispation sur le plan de la diplomatie, notamment avec le Nord, il y a une véritable dérive autoritaire, Juliette Morillo, pendant ces années Park Geun-hye, avec notamment des pressions sur les journaux, sur la presse, et puis ce fameux scandale qui a touché le milieu artistique.
Alors, il y a un double scandale. Il y a en effet une liste noire qui comporte des milliers de noms et qui est une sorte de retour aux années noires de la dictature de Park Chung-hee. Vous avez énormément d'artistes, de metteurs en scène, de cinéastes qui étaient blacklistés sous Park Geun-hye. Donc ça fait un véritable scandale. L'autre partie de ce scandale, c'est la perte de confiance dans les fameux chaebol, c'est-à-dire ces conglomérats genre Samsung, Hyundai, qui ont fait finalement la gloire de la Corée et qui sont totalement décrédibilisés puisque ce sont des grandes familles qui concentrent tout. Et je prends pour cela un exemple. Ça a démarré en fait, ça a culminé avec le scandale de Park Geun-hye quand on a vu la corruption de Samsung et les liens avec le gouvernement. Mais souvenons-nous simplement d'une petite chose. Il y a 2 ans, vous avez l'héritière de Korean Air qui a fait revenir un avion à port simplement parce qu'on lui avait servi des cacahuètes sur une assiette en porcelaine au lieu de les servir dans un sachet. Et à ce moment-là, ça a fait un scandale en Corée du Sud. Je dirais que c'était le démarrage de ce manque de confiance et de ce ras-le-bol finalement, qui est un ras-le-bol qui est historique en Corée. C'est-à-dire que les Coréens ont un mot pour cela. Et c'est ce qui explique d'ailleurs l'ampleur des manifestations qui ont secoué la Corée depuis octobre et qui ont amené à la destitution de la présidente. Ce mot, c'est Han. Han, c'est une sorte de rancœur historique basée sur 2 points, c'est-à-dire tout au long de son histoire, la Corée n'a jamais été maîtresse de son destin. On le voit aujourd'hui, finalement, au sud, vous avez les États-Unis et cette frontière, c'est une sorte de frontière de la guerre froide, ils sont pas vraiment maîtres de leur destin. Et également, le pays a toujours été gouverné par des clans puissants. Et les luttes de clans et de factions ont détruit le pays. Donc tout ça, ça a explosé et ça a mené à la fameuse destitution de la présidente.
Avec aussi une génération, on peut dire, d'héritiers mal élevés, c'est peut-être aussi le ras-le-bol d'une nouvelle génération face à ces anciens qui se croyaient un petit peu tout permis.
Ah oui, alors la nouvelle génération, c'est une génération de jeunes, sont eux qui ont mené les manifestations. Par exemple, pour revenir au lien avec la Corée du Nord, ils ne rentrent plus du tout dans cette vision de la Corée du Nord dont on brandit la menace à tout bout de champ. Eux, finalement, contrairement à la génération précédente qui aurait peut-être voulu soit un affrontement, soit une réunification, eux, quand on interroge la nouvelle génération, ils nous disent, la Corée du Nord, c'est presque un pays étranger. Donc, il faut les considérer comme un pays étranger, il faut dialoguer avec eux, et cette nouvelle génération, finalement, ne s'entend pas du tout avec la génération de ceux qui ont élu Park Geun-hye, donc les parents, et qui disent, mais vous, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez pas, il y a un danger. Et la nouvelle génération dit non. Donc, c'est une toute nouvelle approche des relations intercoréennes, et puis c'est aussi une nouvelle génération qui est mécontente de ce système de corruption qui est lié au confucianisme, qui enseigne finalement le respect des aînés et qui entraîne une certaine corruption.
Mathieu Duchâtel, on a parlé du conservatisme politique. Est-ce qu'on peut penser justement que cette vision des choses très figée, avec justement les anciens qui ont beaucoup leur mot à dire dans les choix, y compris les plus nationalistes, est-ce que ce conservatisme politique a eu une incidence sur la stratégie militaire ?
L'armée sud-coréenne, on le voit aujourd'hui, est un peu l'un des piliers du régime. Au moment où on discute de l'avenir de la défense antimissile, que les Chinois demandent aux Sud-Coréens de les éliminer, l'institution qui n'a absolument pas bougé, c'est l'armée sud-coréenne. Elle a été extrêmement claire dès le début sur le maintien des intérêts de sécurité du pays, sur une approche entièrement centrée sur la sécurité militaire du sud de la péninsule, qui ne prenait pas en compte l'impact sur les relations avec la Chine. Et on voit bien, en fait, aujourd'hui, au moment où la Corée du Sud n'a plus qu'un président par intérim, que l'armée est là pour tenir un petit peu une certaine continuité. Les exercices conjoints avec les États-Unis ont lieu aujourd'hui. Elles jouent un rôle de dissuasion qui est essentiel au moment où la Corée du Sud est quand même, pourrait être perçue, en tout cas au Nord, comme affaiblie.
Mathieu Duchâtel, merci beaucoup. Juliette Morillo, on vous retrouve pour poursuivre cet échange. Ce sera juste après le journal sur RFI.
Géopolitique. Caroline Paré.
Et on se retrouve avec nos invités pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Corée. Nouvelle donne après Park Geun-hye, nouvelle donne après cette destitution de la présidente. Une Corée du Sud qui va donc entrer en campagne alors que Pyongyang multiplie les tirs de missiles sans sembler tenir compte ni des avertissements ni des sanctions de la communauté internationale. On retrouve donc nos invités, Juliette Morillo, historienne, vous avez signé de nombreux ouvrages sur les Corées. Mathieu Duchâtel, chercheur à l'Institut européen pour les relations internationales, spécialiste des questions de sécurité. Deux Corées, deux États séparés, pourtant deux destins toujours intimement liés. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique l'a évoqué ces derniers jours. Le programme nucléaire de Pyongyang aurait franchi, selon lui, une nouvelle étape en doublant la surface de ses installations qui produisent de l'uranium enrichi. Donc l'AIEA semble juger crédible en partie, Mathieu Duchâtel, les proclamations de la propagande nord-coréenne.
C'est pas seulement de la propagande, on a pu vérifier que la Corée du Nord avait un programme d'enrichissement d'uranium. On n'en sait pas la surface exacte, mais ce qu'on sait, c'est que la Corée du Nord poursuit donc les deux filières, la filière d'enrichissement d'uranium et la filière plutonium, qu'elle a des ambitions qui sont extrêmement claires. L'ambition finale de la Corée du Nord, c'est d'avoir une arme nucléaire de grande puissance, miniaturisée, sur un missile intercontinental, pour dissuader les États-Unis, de préempter un petit peu la situation en attaquant avec des frappes préventives la Corée du Nord. Ça, elle le dit de manière très claire. Ce qu'on a vu sous Kim Jong-un, c'est que tous les programmes ont été accélérés. Les différents programmes de missiles balistiques, du missile balistique de plus courte portée au missile balistique intercontinental, que les Nord-Coréens n'ont pas encore testé de manière satisfaisante. Que la Corée du Nord avait aussi lancé un programme de dissuasion nucléaire sous-marine, donc en testant des missiles sur des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qu'ils n'ont pas encore, mais le programme est en cours. Et ce que on peut dire aujourd'hui, c'est que la Corée du Nord a des engins qui sont rudimentaires et qu'elle peut sans doute déjà les mettre sur des missiles de courte et de moyenne portée. Et c'est pour ça que aussi bien la Corée du Sud que le Japon sont particulièrement inquiets des progrès qui ont été accomplis ces dernières années. Et même si la Corée du Nord n'avait pas les capacités, parce qu'il y a une ambiguïté sur ce point, de miniaturiser ses têtes nucléaires et de les installer sur des missiles de courte et de moyenne portée, elle aurait la capacité déjà d'installer des armes chimiques et biologiques, dont on a bien vu avec l'assassinat de Kim Jong-nam qu'elle les possède. Elle aurait la capacité d'installer ces armes chimiques et biologiques sur des armes de courte portée, et ça a un effet dissuasif important.
Et Kim Jong-nam, demi-frère donc du dirigeant nord-coréen qui est mort au début du mois alors qu'il se trouvait à Kuala Lumpur. Alors, est-ce que Séoul, aujourd'hui, Mathieu Duchâtel, ne se retrouve pas victime d'une surenchère entre Washington d'un côté, Pyongyang de l'autre? Alors qu'on le sait, ces derniers jours, le chef de la diplomatie américaine s'est rendu dans plusieurs capitales régionales, Tokyo, Séoul et Pékin.
Alors je crois que pour tous les États qui sont partis à ce problème, les États-Unis en particulier, le Japon, la Corée du Sud, vous avez trois options. L'option des sanctions, qui est celle que tout le monde suit aujourd'hui, l'option du dialogue, qui est interrompue pour tout le monde, et l'option de la dissuasion. Ce qu'a fait Park Geun-hye pendant sa présidence, c'est qu'elle a misé beaucoup plus qu'avant, finalement, sur la dissuasion conventionnelle. On a des déclarations de la présidence sud-coréenne et de l'armée qui parlent d'attaquer Pyongyang, la ville de Pyongyang, un petit peu comme les Nord-Coréens ont parlé de détruire Séoul. La Corée du Sud mise aussi beaucoup sur la dissuasion. Elle a beaucoup d'avantages en termes d'armement conventionnel. Elle a des avantages qui sont même tout à fait stratégiques et que la Corée du Nord tente de compenser par ses programmes d'armes de dissuasion massive. La Corée du Sud a quand même une certaine marge de manœuvre. Ce qu'elle doit se poser comme question aujourd'hui, c'est le grand enjeu de ces élections et de la prochaine politique nord-coréenne du Sud, c'est le degré de diplomatie et de dialogue dans le mix entre les trois, sanctions, dissuasion, dialogue.
Alors justement, pour cette présidentielle de mai prochain, l'opposant Moon Jae-in est présenté comme le favori. D'ailleurs, il avait raté de peu la présidence en 2012, Juliette Morillot.
Oui, en effet, la présidente Park Geun-hye a été élue en 2012 sur une fracture générationnelle, c'est-à-dire que ceux qui l'ont élue, c'est en gros la vieille génération qui soutenait son père, qui était nostalgique d'un pouvoir plutôt dur.
Eux-mêmes qu'on a vu manifester dans la rue par milliers, alors que les autres étaient des centaines de milliers pour dire « va-t'en ».
Exactement. Et Moon Jae-in était donc son opposant malheureux, qui a échoué. D'ailleurs, on a parlé de trafic d'influence. Enfin bon, c'était pas très clair. Les élections n'étaient pas très claires au moment, mais lui était soutenu par une partie de la population, la jeunesse, etc. Et c'est lui maintenant qui revient sur le devant de la scène. Alors, Moon Jae-in, c'est un avocat qui a été un opposant, qui a connu les prisons sud-coréennes sous le père de Park Geun-hye, donc sous la dictature de Park Chung-hee. Il a lui-même été déjà au gouvernement, il a eu une expérience du gouvernement puisqu'il a été, je crois, ministre sous Noh Moo-hyun, qui est un président démocrate qui a fini par se suicider et, coïncidence, qui a aussi été destitué mais réinstauré par la suite. Donc lui, Moon Jae-in, incarne véritablement une nouvelle Corée et a plusieurs axes dans son programme. D'abord, il va, parlons de la Corée du Nord, comme tous les autres candidats potentiels, il est plutôt partisan d'un dialogue direct avec Pyongyang. Ce qui le met un tout petit peu en porte-à-faux avec les États-Unis, qui ne souhaitent pas véritablement un dialogue direct entre Séoul et Pyongyang. Il faut s'interroger un petit peu sur ce que veut Pyongyang. Il faut voir, pour tout comprendre aussi, comment se sent Pyongyang. Pyongyang, j'y étais il y a 2 mois, se sent assiégé. Quand on est à Pyongyang, on sent la menace étrangère et la menace américaine. Donc Pyongyang considère l'arme nucléaire comme une véritable assurance-vie et la seule façon d'assurer sa propre survie.
Comme les Occidentaux présentent aussi Pyongyang comme une menace quasiment des Occidentaux, en tout cas Séoul, qui représente les Américains dans la région, qui se sentent eux-mêmes menacés physiquement. Les choses sont présentées de façon, en fait, miroir des deux côtés.
Oui, mais quand on réfléchit bien à la situation, mettons-nous à Pyongyang, vous avez quand même 30 000 soldats américains qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. Vous en avez également à Okinawa. Il faut savoir qu'un soldat américain sur 3 basé à l'étranger est basé dans cette région. Et quelle est finalement la raison d'origine de cette présence américaine dans cette partie de l'Extrême-Orient? C'est un petit peu la montée en puissance chinoise. Les Chinois qui vont vers la mer de Chine méridionale, qui vont vers la mer de Chine orientale. Donc, il y a d'autres raisons. Et Pyongyang, finalement, joue habilement de tout cela. Donc, Pyongyang, lui, veut assurer sa survie et considère l'arme nucléaire comme sa seule option pour survivre. Ce qui, vu de Pyongyang, n'est finalement pas faux. Ils ont pas trop mal réussi, on peut le dire cyniquement, depuis toutes ces années. Et ce qu'ils veulent, c'est un dialogue direct avec Séoul de façon à dénouer tout cela. Et les candidats sud-coréens à l'élection ont tous dit qu'ils essaieraient de dialoguer, même si aujourd'hui la situation devient un petit peu tendue. Et le premier objectif finalement de Pyongyang aussi, et ne l'oublions pas, tout simplement un traité de paix sur la péninsule. Il faut pas oublier que c'est toujours une zone de guerre. Il n'y a pas eu de traité de paix et Pyongyang veut aussi un traité de non-agression américaine au préalable de toute possibilité de retour à la table des négociations assises sur la démilitarisation.
Mathieu Duchâtel, peut-être qu'il y a justement aussi dans ce sentiment de menace le déploiement du fameux bouclier antimissile qui est perçu par plusieurs capitales de la région, Pyongyang bien sûr, mais peut-être surtout Pékin, comme une agression.
Oui, il y a 2 choses pour rebondir sur ce que disait Juliette Morillot, qui est tout à fait juste. Il y a aussi un 3e objectif de la part de Pyongyang, officiel, qui est d'être reconnu par la communauté internationale comme puissance nucléaire. Et c'est vraiment tout l'enjeu du dialogue. Est-ce qu'un dialogue peut être sans condition au moment où Pyongyang dit de manière assez claire, puisque c'est inscrit dans la constitution de la République démocratique de Corée, que la Corée du Nord est un État nucléaire qui aspire à la reconnaissance internationale et à un modèle, on va dire, indien, c'est-à-dire un retour dans le concert des nations armées du nucléaire. Alors le SAD, la défense antimissile, disons d'altitude terminale, qui est aujourd'hui installée par les Américains en Corée du Sud, on voit que les premières batteries ont été installées la semaine dernière, vous l'avez dit, peut gêner la dissuasion nucléaire nord-coréenne, et je l'ajoute parce que je pense que c'est important, sa dissuasion aussi avec ses autres armes de destruction massive, chimiques et biologiques, puisque le SAD est un système qui donc détecte d'abord, mais détruit aussi avec de l'énergie cinétique, les missiles en phase terminale, mais les missiles uniquement de courte et de moyenne portée. Donc les missiles nord-coréens qui sont opérationnels aujourd'hui, en particulier les Nodong, qui sont des missiles de courte et moyenne portée, qui sont les plus menaçants pour le Japon et la Corée du Sud, seraient en partie sous la menace du SAD. La grande question qui est derrière tout ça, c'est la Chine et c'est sa capacité de dissuasion. Les Chinois sont furieux du déploiement en Corée du Sud du système SAD et en particulier du radar. Ils l'ont expliqué de manière assez claire. Ce qui les gêne dans tout ça, c'est avant tout les radars. Et ce qui les gêne dans ces radars, c'est que ces radars dégraderaient leur propre capacité de dissuasion nucléaire. Et c'est là que la nuance est importante, parce qu'il y a deux choses du côté chinois. La première, c'est que la dissuasion nucléaire chinoise à partir du territoire chinois repose sur des missiles intercontinentaux qui ne sont pas directement menacés par le SAD, puisque le SAD détruit avant tout des missiles de courte et de moyenne portée. Donc ce qui gêne le plus les Chinois, c'est la capacité du radar à déterminer en fait quel type de missile il teste et à s'intégrer dans une défense antimissile plus large qui, à terme, aurait pour effet, et c'est vrai, d'affaiblir la capacité de dissuasion de la Chine et donc de changer l'équilibre stratégique à l'échelle globale.
Et tout ça, même si ça paraît compliqué, hein, quand on écoute tous ces systèmes, toutes ces méthodes liées à la défense, et bien ça a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne en Corée du Sud, puisqu'il y a eu les rétorsions de Pékin qui, là, agissent directement et qui peuvent à terme agir sur l'économie sud-coréenne.
Oui, bien sûr, notamment l'interdiction, on en parlait tout à l'heure, des voyages individuels et en groupe chinois en Corée du Sud. C'est quand même un gros potentiel économique. Donc les relations sont vraiment en train de pourrir un petit peu au quotidien. Et alors il y a un autre élément qui est important. Il faut savoir que la population sud-coréenne aussi a cette sorte de relation amour-haine avec les États-Unis. C'est-à-dire que eux-mêmes ne sont pas forcément la population favorable à l'installation de ces batteries antimissiles en Corée du Sud. Donc il y a véritablement une ambiguïté dans la région, et encore un autre élément qu'il ne faut pas oublier, la Russie de Poutine, pour l'instant la Russie se tient un petit peu en dehors de tout cela, pourrait aussi être mécontente et se trouver dans une situation similaire à la Chine.
Et Juliette Morio, est-ce que historiquement justement les conservateurs qui sont encore au pouvoir jusqu'aux élections et les libéraux qui sont pressentis, qui auraient le vent en poupe pour peut-être accéder au pouvoir prochainement. Est-ce que chacun de ces partis se définit en fonction de sa relation avec l'allié américain ?
Alors, Moon Jae-in, donc, qui serait le candidat le plus probable, puisqu'il est crédité aujourd'hui de près de 37% des intentions de vote, a dit qu'il allait garder, bien sûr, les relations avec les États-Unis et qu'il allait continuer à les entretenir. Mais en parallèle, dans son programme électoral, il établit une sorte de nuance, justement, pour les batteries antimissiles, et veut quand même avoir une politique qui ne plairait pas forcément à Washington, de dialogue direct avec Pyongyang.
Et il a une marge de manœuvre, par exemple, sur ses boucliers. Il peut arrêter le déploiement, il peut contraindre à démonter ce qui a été monté, ou tout ça, c'est finalement que des mots, que des discours politiques ?
Non, je pense que c'est plutôt des discours politiques. Je pense pas qu'il ait de marge de manœuvre. C'est décidé, c'est déclaré. Je ne pense pas que, pour l'instant, ça va changer.
Est-ce que, justement, ce qui est du lien avec Pékin et Tokyo est aussi déterminée par la couleur politique. Est-ce que les libéraux aujourd'hui sont vraiment déterminés à tisser des relations plus importantes avec les Chinois, avec les Japonais? Il y a toujours des contentieux historiques entre Séoul et ses voisins. Comment cela peut se régler? Parce qu'on a vu justement sous la présidence de Park Geun-hye justement une main tendue en particulier vers le Japon.
Alors il y a une main tendue vers le Japon, mais qui a été téléguidée par Washington. C'est-à-dire que la main tendue, l'un des contentieux principaux entre le Japon et la Corée du Sud, était l'affaire des femmes de réconfort. Donc, les femmes de réconfort sont ces Coréennes qui ont été embarquées comme prostituées à la solde de l'armée japonaise, et pour lesquelles le Japon, pendant la guerre, n'a jamais formulé de véritables excuses. Donc en décembre, il y a 2 ans, il y a eu un accord entre Tokyo et Séoul pour résoudre ce problème. Mais cet accord a été brusqué littéralement par Washington, et Park Geun-hye, qui voulait absolument, Park Geun-hye, la présidente sud-coréenne, voulait absolument réussir cet accord avant la fin de son mandat, et Washington poussait justement vers un accord entre Séoul et Tokyo pour faire front contre la Corée du Nord. Mais là encore, c'est pas totalement terminé, parce que les principales intéressées, donc les femmes de réconfort, ont paradoxalement été complètement tenues à l'écart de ce fameux accord. Donc, je pense que les blessures historiques entre le Japon et la Corée du Sud ne sont pas cicatrisées, de même que les blessures historiques entre le Japon et le bloc asiatique ne sont pas cicatrisés. C'est-à-dire, il faut se dire que le Japon, finalement, aujourd'hui, trouve aussi dans la menace coréenne, nord-coréenne, une raison de se remilitariser. Et en même temps, il faut se dire que le Japon n'a pas forcément envie d'avoir une Corée réunifiée à ses portes, parce que s'il y avait un énorme bloc asiatique, donc chinois, plus coréen à ses portes, il y aurait ce sentiment anti-nippon latent qui pourrait ressurgir. Donc c'est de toutes ces ambiguïtés que joue aussi Pyongyang, et c'est tout ce qui rend la situation extrêmement délicate.
On arrive à notre conclusion, Mathieu Duchâtel. On a parlé justement des relations conflictuelles, du danger de cette frontière, mais il y a aussi toute cette zone maritime, toute cette zone de la mer de Chine, avec des puissances là aussi qui sont à couteau tiré, chacun avançant, chacun se menaçant. Est-ce que justement ces bouleversements politiques à Séoul peuvent avoir une incidence sur cette question particulière des litiges maritimes?
Ça nous amène à une conclusion sur les relations sino-américaines, puisque les relations sino-américaines autour de la question de Taïwan, autour des questions maritimes, des questions qui comptent le plus pour les Chinois, ont une dimension évidente qui est liée à l'avenir de la péninsule coréenne. Alors, on en est aujourd'hui à une phase de grande incertitude qui est liée au fait que la revue de politique nord-coréenne des États-Unis n'est pas arrivée à son terme. Donc on ne sait pas encore quelle est l'option que les Américains vont retenir. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on a eu une tendance dans l'histoire, au moins à 2 moments, à avoir un impact très fort des événements sur la péninsule coréenne, des événements qui se déroulaient sur la péninsule coréenne, sur les relations sino-américaines, sur les questions maritimes et sur la question de Taïwan. Alors bien sûr, en 1950, puisque les États-Unis ont renoué avec Taïwan qu'ils souhaitaient abandonner pendant qu'ils entraient dans la guerre de Corée, mais aussi beaucoup plus récemment, pendant la période 2004-2005, quand les indépendantistes étaient au pouvoir à Taïwan comme aujourd'hui, que l'administration Bush était plutôt pro-taïwanaise, que la Corée du Nord commençait vraiment de relancer son programme nucléaire, enfin en tout cas l'accélérer et arriver au test, et où les Chinois ont pas rompu, mais où ont changé leur approche de la péninsule coréenne en échange d'un changement d'approche américain sur Taïwan. C'est l'un des scénarios possibles pour les 2 prochaines années.
L'incertitude du côté de Washington, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sera notre conclusion, Juliette Morio, quand Washington dit vouloir en finir avec sa politique de patience stratégique vis-à-vis de la Corée du Nord.
Finalement, le dossier nord-coréen n'a pas été résolu par Barack Obama, et je pense que là, maintenant, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire pendant toute la période Obama, finalement, les faucons de l'administration américaine n'ont pas eu voix à la parole. Avec Trump, maintenant, on parle véritablement de frappe préemptive sur la Corée du Nord, et je pense que les États-Unis, aujourd'hui, envisagent toutes les possibilités, éventuellement même la possibilité d'une attaque ciblée isolée sur la Corée du Nord. Donc en fait, curieusement, l'attitude de la Corée du Nord finalement ne change pas beaucoup, mais c'est tout le contexte de la région qui aujourd'hui est volatile, c'est-à-dire un contexte volatile avec la remilitarisation du Japon, avec une interrogation sur qui va gouverner en Corée du Sud, et bien sûr, ainsi que le disait Mathieu Duchâtel, une interrogation pour l'instant sur quelle va être la politique de Trump dans la région.
Et on reparlera bien sûr de ces échéances politiques pour la Corée du Sud et judiciaire, hein, pour aussi son ancienne présidente. Merci à nos invités d'avoir participé à cette édition de Géopolitique. Juliette Morillo, historienne. Votre ouvrage « La Corée du Nord en 100 questions » est paru chez Talendier. Mathieu Duchâtel, directeur adjoint au programme Asie et Chine au Conseil européen des relations internationales. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission de Marie-France Chatin, préparée aujourd'hui par Caroline Paré, Sophia Bédard, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Notre magazine géopolitique demain sera intitulé « De la guerre à la famine, 20 millions d'humains en danger ». Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de RFI.